Notre devise, hein, vous la connaissez maintenant, elle est plus nouvelle. Hein. Notre devise, une famille connectée, est une belle devise. Être connecté à Dieu, les uns aux autres et au monde qui nous entoure et vivre tout cela comme une famille, unie. Pour la connexion au monde, on en a parlé un petit peu ces dernières semaines. C'est Jésus qui nous en a montré l'exemple. Aller à la rencontre de l'autre. Quelquefois, c'est vrai que le monde peut être utilisé, même dans la Bible, de façon péjorative. Lorsque l'on dit on veut se connecter au monde, c'est évidemment pas dans ce sens-là. C'est garder le contact avec les gens de la société qui nous entoure. Et ce matin, on va parler de cette connexion au monde, mais aussi des relations fraternelles dans l'Église que nous avons à cœur d'entretenir. Ces dernières semaines, et je pense que je ne suis pas le seul, quasiment tous les dimanches, j'ai vu des visages dans l'Assemblée que je ne connaissais pas. De nouveaux visages. Et un des défis, je pense, de notre Église, c'est justement de réussir à faire connaissance avec les nouvelles personnes qui fréquentent notre Église. On commence à être une taille de groupe où c'est même pas évident de connaître tout le monde. Est-ce que tout le monde connaît tout le monde? On arrive un petit peu à une petite limite humaine aussi. Alors en tant que responsable, oui, on arrive un petit peu. Désolé si des fois j'oublie aussi de vous saluer ou comme ça, mais c'est vrai que c'est un vrai défi, ne serait-ce que déjà de faire connaissance avec les nouvelles personnes qui fréquentent l'Église, mais aussi aller plus loin que ça, que chacun puisse ensuite trouver sa place, puisse se sentir intégré dans notre Église. C'est même d'ailleurs, je pense, en quelque sorte, une des dernières étapes de l'accueil dans l'Église. On n'a pas totalement accueilli quelqu'un avant de lui avoir donné l'occasion d'ajouter sa pierre à l'édifice. Et c'est dans ce sens que je vous propose de lire un texte issu de la première lettre de Pierre. Et on va lire seulement deux versets, mais ils sont suffisamment riches pour que nous nous arrêtions quelques instants et quelques minutes dessus. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Et le Amen est dans le texte biblique même. Premier point, le service selon les dons. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Quand on parle de service selon les dons, qu'est-ce qui est le plus important? Le service ou les dons? Pour ma part, je pense que c'est le service. Des fois, on dit l'esprit de service doit primer. Parce que les dons que Dieu accorde sont là pour servir, pour être mis au service des autres. Sans l'esprit de service, les dons ne servent à rien. Je vous rappelle d'ailleurs que le mot « don », dans son sens le plus général, signifie tout simplement « cadeau ». La même racine que le mot « grâce ». Ces cadeaux sont des bénédictions de Dieu. Et certains de ces cadeaux, oui, sont des aptitudes, des capacités que nous pouvons mettre au service des autres. Le mot « don », d'ailleurs, on le comprend assez facilement en français dans ce sens-là. Puisqu'il a un double sens, un don c'est quelque chose qu'on donne, donc un cadeau qu'on fait, et aussi une aptitude, une capacité. En grec, nous n'avons pas nécessairement ce deuxième sens, mais cela dit, dans les cadeaux que Dieu donne, il y a aussi tout ce qu'il nous donne de savoir-faire, de savoir-être. Les capacités font partie des dons de Dieu. Et quand dans cette prédication j'utiliserai le mot don, des fois ce sera plutôt tout ce que Dieu nous donne, comme dans la question que je vous ai posée, qu'est-ce que Dieu vous a donné? C'est un don. Ce que Dieu donne, c'est un don. Mais des fois, c'est aussi, j'utiliserai ce mot dans le sens plutôt capacité, je ne le préciserai pas à chaque fois, ce sera assez naturel puisqu'on a ce double sens en français. La recherche des capacités que Dieu nous a données n'est pas une fin en soi. On n'a pas besoin de connaître ses dons pour savoir qui on est. Et je voulais quand même le dire parce que des fois, on entend l'inverse. Notre identité ne dépend pas de nos dons. Notre identité, elle se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes filles ou fils de Dieu par Jésus-Christ. Dieu nous aime et nous appelle à son service comme nous sommes. Et bien sûr, il y a certains services qui demandent certaines capacités. Mais beaucoup de services aussi ne demandent pas de capacités particulières. Il suffit souvent d'apprendre. D'ailleurs, même si vous avez un don pour tel ou tel service, il ne faut pas croire que ça vous demandera aucun travail et aucun apprentissage. Il s'agit d'apprendre à mettre en pratique les dons que nous avons reçus. Ça ne se fait jamais tout seul. Nos dons sont des outils que nous sommes appelés à mettre au service du Seigneur, dans la communauté, et je pense même au-delà aussi, je le dirai dans un instant, et puis pour faire ceci, il faut accepter quelquefois qu'on ait besoin justement encore d'apprendre. Ok, on a une capacité, mais elle est peut-être brute encore, et puis il va falloir affiner tout ça. Besoin de formation, besoin d'apprendre. C'est cela aussi l'esprit de service, ça ne pose pas de problème si l'esprit de service précède notre démarche et notre motivation. Parler de ses dons, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on a envie de faire, c'est bien, mais c'est bien aussi de parler des besoins. Si je veux savoir où je peux me mettre au service, il faut que je voie où est-ce qu'il y a aussi un besoin, où est-ce que je peux être utile dans la communauté. Il ne suffit pas seulement que je m'interroge sur moi-même, quels sont mes dons, et puis, mais aussi quels sont les besoins autour de moi. Il y a sans doute d'ailleurs des besoins devant lesquels on se sentira démuni, on ne pourra pas répondre, mais il se pourrait bien qu'il y ait des besoins où je peux trouver, nous pouvons trouver notre place et nous rendre utiles. Et c'est pour ça que c'est important de valoriser les dons des uns des autres pour pouvoir aussi en être tous au bénéfice. Lorsqu'on valorise le don de quelqu'un, eh bien c'est parce que aussi on en est au bénéfice. Encourageons-nous mutuellement au service, cultivons l'esprit de service, c'est jamais gagné, on a toujours besoin de le cultiver. Comme l'apôtre Paul d'ailleurs y invitait les chrétiens de l'église de Galatie, il dit « Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains, au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » Deuxième point, expression de ce texte magnifique, administrer la grâce de Dieu. Alors, vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors, c'est une formule qui pourrait peut-être nous faire penser aussi à la parabole des talents. Vous savez, où Jésus parle d'un maître de maison qui confie ses biens à trois de ses serviteurs pour qu'il les fasse fructifier pendant son absence, et à son retour, il va féliciter ceux qui les ont fait fructifier, mais il va aussi réprimander celui qui a juste enterré l'argent pour le préserver. Et c'est comme si Pierre, dans sa lettre, nous invitait à relire cette parabole individuellement, mais aussi collectivement. C'est en tant que communauté que nous sommes, et c'est un privilège incroyable, administrateurs, de la grâce infiniment variée de Dieu, c'est-à-dire de toutes les bénédictions que Dieu a confiées à ses enfants, à son Église. Alors il s'agit moins de se demander quel don chacun a reçu, mais qu'est-ce que Dieu nous a aussi collectivement donné, confié dans sa grâce. Et en réalité, je crois que, peut-être en tout premier, ce que Dieu nous a confié, ce sont chacune des personnes que nous sommes. Nous sommes les dons de Dieu à son Église avec ce que nous sommes, avec notre histoire, avec notre personnalité, nos capacités. Et c'est d'ailleurs intéressant et même valorisant de se considérer mutuellement comme des dons que le Seigneur offre à la communauté. Lorsque j'ai mon frère ou ma sœur en face de moi, il est un cadeau pour moi. Même si je pense des fois, peut-être le contraire, où il y a aussi des moments pénibles, c'est quand même vrai. Évidemment, pour que ça fonctionne, alors nous devons nous accueillir les uns les autres, nous devons être dans cet état d'esprit de service mutuel. Le problème, c'est quand on va tomber, justement, plutôt dans des tensions, des disputes, des jeux de pouvoir, de la rivalité, de la jalousie. Quand on pense aussi que nos dons nous donnent peut-être un pouvoir sur les autres, alors je le dis tout simplement, nos dons ne nous donnent aucun droit dans l'Église et aucun pouvoir sur les autres. Ils sont juste des outils pour mieux servir mon prochain. Alors, de quel don parle-t-on ? De quel don parle-t-on ? Il existe plusieurs listes de dons dans le Nouveau Testament, je ne vous apprends rien, et celle que nous trouvons dans ce texte de Pierre, dans ces deux versets, est la plus courte. Elle n'a que deux catégories, parler et servir. Que la personne qui a le don de transmettre, le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Et littéralement, on pourrait traduire « si quelqu'un parle » ou « si quelqu'un sert ». Cette liste est la plus courte des listes de dons que nous avons dans le Nouveau Testament, et c'est aussi la plus ouverte. Chacun pourra y trouver sa place. Quand on va regarder d'autres listes de dons, des fois on se dit « ah ouais, mais je ne trouve pas le mien ». Alors que là, j'ai l'impression que tout le monde peut se sentir concerné. Qui n'est pas concerné, soit par le fait de parler, soit par le fait de servir. Parler, ce n'est pas seulement, d'ailleurs, dans ce contexte, uniquement pour la prédication ou l'enseignement, même si ça en fait partie. C'est tout ce qui peut être lié à la parole, y compris l'écoute, la prière. C'est un don qu'on peut exercer, par exemple, en faisant des visites, en priant avec d'autres. Et servir désigne alors tout ce qui est pratique et concret. Et ce n'est pas une catégorie moindre que la première. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. D'ailleurs, peut-être même, je dirais qu'elle est plus importante, parce que les belles paroles, hein, si ce n'est pas suivi des actes. Il n'y a rien de péjoratif à servir plutôt que parler. C'est important de valoriser les dons de service, parce que les dons de parole le sont peut-être plus naturellement déjà valorisés. Notamment ceux qui vont s'exercer publiquement. Une précision encore, que ce soit pour servir ou pour parler, il faut concevoir les dons aussi au-delà des murs de l'Église. Dans ce texte, il n'est pas question « quand l'Église est réunie, alors mettez-vous au service des uns des autres ». C'est un peu plus large, il me semble. Le don que j'ai reçu peut être celui de parler, celui de servir, voilà, n'est peut-être pas appelé à s'exprimer dans l'Église rassemblée, mais toujours dans le cadre de l'Église, mais lorsqu'elle est dispersée, cette Église, le reste de la semaine. Hein, on est une famille connectée. On est une famille quand on est réunis en réunion de famille, mais on reste une famille aussi quand on est séparé le reste de la semaine. Peut-être que je suis appelé à servir le Seigneur et son Église en exerçant mes dons dans mon quotidien, c'est-à-dire du lundi au samedi. Je ne serai peut-être jamais appelé à voir mon nom parmi ceux des responsables de l'Église, mais je pourrais très bien par ailleurs être un membre actif de l'Église, utile pour la communauté et pour tout mon entourage. Et c'est là que je voudrais justement passer un petit peu de temps sur cette notion que je viens d'évoquer, Église rassemblée, Église dispersée. Ok. Et je regardais ce qui est affiché, c'est très bien, c'est la bonne diapo. Et donc pour développer ce que je viens d'évoquer donc à l'instant en parlant de mettre ses services, ses dons au service des autres dans le quotidien, je trouve éclairant justement cette notion d'église rassemblée, d'église dispersée, faire cette distinction qui est quand même assez moderne, hein, elle est maintenant dans les ouvrages de missiologie assez récents, mais elle a quelque chose de pertinent, hein. L'église, tout court, c'est bien sûr la somme des deux, l'église rassemblée et l'église dispersée. L'église rassemblée, c'est comme son nom l'indique, lorsque nous nous rassemblons dans le cadre de la vie de l'église, pour le culte le dimanche évidemment, mais aussi pour les différentes réunions, les études bibliques, la réunion de prière, les groupes de maison, ou aussi toutes les occasions pour lesquelles nous nous rassemblons, y compris si on propose un concert, un atelier bricolage, toutes les activités aussi de l'église qui impliquent une forme de réunion, de rencontre. Et l'église dispersée, c'est quoi ? C'est tout le reste du temps, lorsque nous sommes dispersés sur nos lieux de vie, de travail et d'engagement, et ce qui représente de loin la plus grande partie, évidemment, de notre temps. Si on fait un petit calcul, est-ce que vous savez combien il y a d'heures dans une semaine ? Alors, 7 fois 24, hein, 168. Il y a 168 heures, alors bien sûr, là, il y a les heures où on est semi-inconscient, hein, dans notre sommeil, hein, c'est sûr. Mais admettons que nous passons 5 heures par semaine dans une réunion de l'Église. Je pense que ce serait déjà beaucoup, hein, passer 5 heures dans des réunions d'Église. Ça ne représente toujours qu'une infime partie de ce temps. Même si on enlève les heures de sommeil, le temps réservé à l'Église rassemblée représente en général moins de 5% de notre temps. Parler d'église rassemblée et d'église dispersée permet de souligner du coup que nous continuons à former une famille, qu'est l'église, lorsque nous sommes dispersés sur nos différents lieux de vie. Nous continuons d'être liés les uns aux autres, H24, même si on n'est pas ensemble. Et nous continuons à participer chacun pour notre part à la mission que Jésus-Christ nous confie. Et là, sur le petit dessin, mais on ne le voit pas bien, je vous l'accorde, on a quelques schémas qui reprennent des images de l'Église et qui montrent aussi que eh bien, cette Église, elle est présente dans le monde, hein, comme la lumière du monde, le sel de la terre, etc. C'est pour ça qu'il y a ces flèches qui disent que voilà, l'Église dispersée existe au milieu du monde et rayonne quelque chose de Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul parle du culte que Dieu attend de nous, il ne parle pas de notre rencontre du dimanche matin ou des réunions d'église seulement. Je vous lis Romains 12. « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. » On voit bien que ce culte concerne toute la vie et pas uniquement les temps où l'Église est rassemblée. L'apôtre Paul a une compréhension globale du culte que nous devons rendre à Dieu en tant que ses enfants. Il s'agit de s'offrir soi-même en sacrifice vivant. Notre vie, dans tous ses aspects, participe au culte rendu à Dieu. Et donc les concepts d'Église dispersée, d'Église rassemblée, sur lesquels on a passé quelques secondes, là, eh bien, nous permettent de comprendre cela, que toute notre vie est concerné par notre foi. Si on espère pouvoir rendre à Dieu le culte qu'il mérite uniquement lorsque l'Église est rassemblée, ou si on espère remplir la mission que Jésus-Christ nous a donnée uniquement lorsque l'Église est rassemblée, on n'y arrivera jamais. Il faut nous séparer, car notre mission est d'aimer et d'annoncer la bonne nouvelle bien au-delà de nos réunions d'Église. Et tout cela, dans quel but ? Eh bien, c'est encore Pierre qui nous le dit dans ce passage. Rendre gloire à Dieu. C'est là que nous revenons à 1 Pierre 4, verset 11. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu. Alors, j'ai cherché sur Google une image de la gloire de Dieu. Alors, on voit des trucs éblouissants avec des lumières, des machins, des représentations qui ne me plaisaient pas trop. Et j'ai trouvé que finalement, cette image, c'était ça. Aussi rendre gloire à Dieu. peut-être aller vers celui qui est moins bien, prendre le temps de l'écoute, de lui parler. Notre comportement et nos actes font partie intégrante du témoignage qui rend gloire à Dieu. Il ne suffit pas de se demander si j'annonce correctement l'Évangile, mais est-ce que je suis aussi une bonne nouvelle moi-même dans ma personne pour ceux que je rencontre, pour les autres. Et cette question est aussi pertinente en tant qu'Église. Est-ce que le message que nous transmettons par nos paroles, mais aussi par nos actes, est une bonne nouvelle ? Est-ce que notre Église est une bonne nouvelle ? Comme son nom l'indique, je sais très bien que c'est une bonne nouvelle, mais pour une vraie bonne nouvelle pour celles et ceux qui en font partie ou qui la rencontrent. Alors on affirme que Dieu nous aime, qu'il nous cherche, qu'il vient à notre rencontre, qu'il nous accorde sa grâce et son pardon. C'est juste et bien, mais est-ce que nous savons le manifester dans notre quotidien pour la gloire de Dieu ? Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à notre Dieu. Et j'en viens déjà à une brève conclusion. On pourrait dire que lorsque nous mettons les dons reçus au service de tous, dans l'Église et hors de l'Église, c'est de cette façon qu'on va accomplir la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Si tout cela fonctionne de manière harmonieuse, alors c'est Jésus-Christ qui sera glorifié. Car c'est lui qui nous accorde ses dons et qui nous envoie. Notre vie, notre Église est ainsi connectée à Jésus-Christ. C'est lui qui donne sens à notre Église et à notre vie, qui nous unit dans sa grâce et son amour et qui nous invite à son service. Pour que notre vie à chacun et la communauté que nous formons ensemble lui rendent gloire. Amen.